Merci d'être avec nous sur RFI. Il est maintenant 16h, temps universel, 17h, ici à Paris. Bonjour.
Charlotte Idrac.
Il continue à gagner du terrain en Syrie. La coalition de djihadistes et rebelles prennent le contrôle de l'aéroport d'Alep et de plusieurs localités voisines. Une escalade dangereuse selon la Russie, l'Iran et la Turquie. Plus de 100 personnes, 107 précisément, arrêtées en Géorgie après les nouvelles manifestations d'hier soir. Mobilisation contre la décision du gouvernement de repousser les négociations d'adhésion à l'Union européenne. Cela ne retombe pas. En Grèce, cela avait pris du retard. Près de 20 ans d'attente. Mais ça y est, la première ligne du métro de Thessalonique est en marche. Il circule au milieu de trésors archéologiques. Oui, l'aéroport d'Alep est donc désormais également sous le contrôle des djihadistes et des rebelles qui poursuivent leur offensive dans le nord-ouest de la Syrie. C'est ce qu'indique l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Selon l'ONG, l'Alliance a également avancé sur des localités stratégiques dans les provinces d'Idleb et de Hamas. Et ce samedi, pour la première fois depuis le début de cette offensive éclair contre les forces du régime de Bachar al-Assad, l'armée syrienne a reconnu de lourdes pertes, Guilhem Delteille.
L'armée du régime syrien évoque des dizaines de soldats tués ou blessés ces deux derniers jours dans des combats qualifiés d'intenses aux abords d'Alep et de la ville d'Idlib, déjà contrôlée par les rebelles. Mais le bilan pourrait être plus important encore. L'avancée est telle en tout cas que le régime ne peut plus la nier et Damas a reconnu ce samedi que des habitants anti-régime ont pénétré dans de larges parties d'Alep. Mais les autorités veulent atténuer la portée de cette percée. D'abord, affirme-t-elle, les rebelles n'ont pas pu se fixer dans la ville en raison des bombardements menés par les aviations russes et syriennes, les premiers depuis 2016. Et le régime assure que le départ de ses troupes de la ville est en réalité un repli stratégique pour renforcer les lignes de défense et préparer une contre-offensive. Mais cette communication tardive cache mal le revers que l'armée loyaliste vient d'essuyer. Alep est la deuxième ville du pays en taille et c'est une ville que le régime a eu du mal à reconquérir lorsqu'il avait perdu le contrôle de sa partie est dans les premières années de la guerre civile. Les combats avait duré 4 ans et n'avait abouti qu'après d'intenses bombardements menés avec le soutien de la Russie.
Et cette situation en Syrie, le chef de la diplomatie russe en a discuté au téléphone avec ses homologues turcs puis iraniens. Ils évoquent une escalade dangereuse. Téhéran affirme aussi que son consulat à Alep a été attaqué, je cite, par des éléments terroristes. 3 jours après l'accord de cessez-le-feu conclu entre l'État hébreu et le Hezbollah, de nouvelles frappes israéliennes ont eu lieu aujourd'hui, d'abord à la frontière entre la Syrie et le Liban, pour viser, selon l'armée, des sites utilisés par le Hezbollah pour acheminer des armes. Des frappes également dans le sud du Liban. Avant l'entrée en vigueur de la trêve cette semaine, le Premier ministre israélien avait prévenu que son pays conserverait une totale liberté d'action militaire au Liban si le Hezbollah violait l'accord et tentait de se réarmer. Plus d'une centaine d'arrestations en Géorgie aujourd'hui, après les nouvelles manifestations d'hier soir à Tbilissi et dans d'autres villes du pays. Cela pourrait reprendre là dans la soirée ce samedi, puisque de nouveaux appels à la mobilisation circulent. C'est la décision du gouvernement pro-russe de repousser les discussions sur l'adhésion du pays à l'Union européenne qui a déclenché cette nouvelle phase de mobilisation. Un mouvement soutenu par la présidente géorgienne, la pro-européenne Salomé Zourabichvili. Et puis au-delà de la rue, des centaines de fonctionnaires, notamment au ministère des Affaires étrangères, de la Défense et de l'Éducation, ont publié des déclarations communes en signe de protestation contre cette décision donc de reporter les négociations d'adhésion. Parallèlement, en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky, lui, ouvre la porte à un éventuel cessez-le-feu. Dans une interview accordée hier à la chaîne britannique Sky News, il s'est dit prêt à attendre pour récupérer les zones actuellement occupées par la Russie, un territoire qui représente 1/5 du pays, une condition que le chef de l'État envisage, donc à condition d'une protection partielle de l'Ukraine par l'OTAN. Extrait de l'entretien de Volodymyr Zelensky chez nos confrères britanniques.
Si nous voulons mettre fin à la phase chaude de la guerre, nous devons placer le territoire de l'Ukraine que nous contrôlons sous la protection de l'OTAN. C'est ce que nous devons faire dans un premier temps. L'Ukraine pourra ensuite récupérer le reste de son territoire de manière diplomatique. Cette proposition n'a jamais été envisagée par l'Ukraine car personne ne nous l'a jamais proposée officiellement. Pourtant, le fait est qu'il s'agit d'une solution pour arrêter la phase chaude de la guerre. En effet, nous pourrions donner l'adhésion à l'OTAN à la seule partie de l'Ukraine qui est sous notre contrôle. Mais l'invitation devra être adressée à l'Ukraine dans son ensemble, selon ses frontières internationalement reconnues. Pourquoi ? Parce que sinon, cela reviendrait à reconnaître que l'Ukraine se réduit à son territoire occupé actuellement et que le reste de l'Ukraine appartient à la Russie.
Voilà le président ukrainien Volodymyr Zelensky. De son côté, le président russe Vladimir Poutine refuse toute adhésion de son adversaire à l'Alliance Atlantique. Des milliers d'habitants privés d'eau au Kosovo après l'explosion qui a endommagé un canal la nuit dernière, un canal crucial pour le secteur énergétique du pays. Le Kosovo a directement accusé la Serbie d'être derrière cette attaque. De son côté, Belgrade dément et dénonce des accusations qualifiées d'irresponsables et sans fondement. De l'eau, les habitants du sud-est de l'Espagne en ont vu des trombes le mois dernier avec les terribles inondations qui ont endeuillé le pays. Hier, des rassemblements étaient organisés dans les zones sinistrées en hommage aux victimes. Un mois donc, jour pour jour après le début de la catastrophe. Et les conséquences restent très lourdes, notamment les conséquences économiques. Selon la radio-télévision espagnole, 50 000 entreprises sont affectées dans la région. Reportage Pauline Glaise.
Des chaises nettoyées au Karcher sur le trottoir, l'espoir pour Pascal Romero de sauver quelque chose dans son agence immobilière. La liste des travaux pour la restaurer est longue.
Couper les murs au milieu, mettre une nouvelle installation électrique, changer tous les ordinateurs, tous les meubles. Et pour l'instant, on s'autofinance.
Et il ne pourra pas rouvrir avant plusieurs mois. Après avoir subi pour 3 millions d'euros de pertes d'équipement et de voitures dans son garage concessionnaire, Fernando Baillé paie des entreprises pour pouvoir accueillir des clients au plus vite. Il vise Noël, mais n'envisage pas un retour à la normale avant au moins un an.
L'économie de cette zone a complètement disparu. Certains entrepreneurs ne rouvriront pas. Des gens âgés, des gens qui ont tout perdu, des gens qui n'en ont pas les moyens. Et s'il n'y a pas de commerce autour, les clients ne viendront pas.
Quant au marché, côté vente, Fernando Baillé ne s'inquiète pas trop. Il y aura de la demande pour remplacer les quelques 120 000 véhicules détruits. Mais ce parc automobile manquera à son atelier d'entretien.
On commencera avec moins d'employés dans l'atelier et on verra. Ensuite, on essaiera d'élargir notre offre de services aux motos, aux scooters. Mais on ne va pas attendre sans rien faire.
De nouvelles aides publiques ont été annoncées, mais il examinera les conditions avant d'y avoir recours. Pauline Glaise, Valence, RFI.
Il aura fallu attendre près de 20 ans, mais cette fois c'est la bonne en Grèce, à Thessalonique, la deuxième ville du pays. La première ligne de métro a été inaugurée aujourd'hui. Les travaux avaient donc traîné en longueur à cause de la richesse archéologique du sous-sol de la ville. Et ce patrimoine historique donne aujourd'hui à certaines stations du métro les allures d'un musée souterrain, Joël Bronner.
Des couches hellénistiques, romaines, byzantines, pour voir le jour, le métro a dû se frayer un chemin à travers le sous-sol d'une ville riche de 2300 ans d'histoire. Natalia Poulou, professeure d'archéologie byzantine à l'université Aristote de Thessalonique.
C'était évident qu'en fouillant, on allait trouver des antiquités dans le sous-sol de la ville. On a pris soin de ces antiquités dans la station Venizelou. On n'a pas perdu même pas un centimètre du niveau et de l'ampleur de ces constructions. C'est très impressionnant.
Pour les usagers, le voyage dans l'espace urbain se double ainsi d'un voyage dans le temps. Spiros Pengas, ancien maire adjoint.
C'est un moment historique, l'arrivée du métro ici à Thessalonique. On l'a attendu pendant tellement longtemps. Durant 18 ans, les travaux ont perturbé la ville, les commerçants, la circulation. Maintenant, si tout va bien, nous attendons une extension rapide du réseau de ce métro.
Pour désengorger le centre-ville d'un trafic automobile intense, la prochaine étape, c'est, sauf nouveau retard, pour 2025, avec une deuxième ligne de métro et cinq nouvelles stations. Joël Bronner, Thessalonique RFI.
Et puis au Vietnam, le Parlement, lui, a donné son feu vert pour le financement d'une ligne de train à grande vitesse entre Hanoï et Ho Chi Minh Ville. Le montant du projet, c'est l'équivalent de 37 milliards de dollars. Cela devrait faire passer le temps de trajet entre les deux villes de 30 heures actuellement à seulement 5 heures. Encore plus vite, toujours plus vite, Max Verstappen, champion du monde de Formule 1, au menu de Mondial Sport avec Hugo Moissonnier et son équipe sur RFI.